Espace 2, Jean-Luc Ridère.
Bonjour, je vous propose le dernier épisode de la série que nous consacrons à la lutherie au Moyen-Âge. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Avouez avec moi que ça n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre s'accorder, comme ici, en l'église du village de Gruyère, un luth médiéval et un psaltérion. C'était avant le concert auquel vous avez peut-être assisté, c'était le 25 août dernier, à Gruyère, donc, un concert qui s'insérait dans le troisième atelier de musique ancienne, dont nous vous parlons depuis le début de cette semaine, organisé par Philippe Motterio et David Van Edwards, qu'on a entendu grâce à David Mechtry, parce que oui, David Mechtry était aussi entre Château et Hostellerie Saint-Georges, il a participé à cet atelier, vous le savez maintenant. Mais nous sommes donc en répétition avant ce concert et les deux instrumentistes que vous entendez maintenant, ils deviendront les invités de David Mechtry dans quelques secondes. Il s'agit de Crawford Young, un très grand luthiste américain, et de la hackbrettiste autrichienne Margit Hubel-Lacker qui va nous présenter son instrument, ses instruments devrais-je dire, après quelques bribes de répétition.
Margit Hubel-Lacker, on vient de vous entendre jouer de deux instruments dans ce concert qui sont deux sortes de psaltérions, c'est bien ça, qui ont une forme très différente. L'un est trapézoïdal avec des cordes triples, l'autre est de forme rectangulaire. Quelle est la vraie différence entre les deux?
Also, wie Sie schon gesagt haben, habe ich heute zwei verschiedene Instrumente gespielt.
Comme vous l'avez déjà dit, j'ai joué aujourd'hui de deux instruments différents. L'un est un psaltérion, qu'on appelle aussi en allemand hackbrett et en anglais dulcimer. Et le deuxième instrument dont j'ai joué, il est assez intéressant. Il s'agit d'un prototype que je me suis fait construire il y a 2 ans. L'instrument s'appelle Dolce Melos et le traité qui a servi de source est celui d'Arno de Zwolle, qui en 1440 décrit de nombreux instruments. Mais il y a eu aussi à l'origine de ce Dolce Melos des illustrations de l'époque. C'est donc en fait une solution de compromis.
Also es war dann ein, auch im Endeffekt eine Kompromisslösung.
Un compromis entre quoi et quoi?
Weil Zwolle hat eigentlich Beschreibungen gegeben über ein Tasteninstrument.
En fait, Zwolle a décrit un instrument à clavier qu'il nomme Dolce Melos. Mais il mentionne aussi, sous le nom de Dolce Melos, un instrument qu'on frappait avec 2 bâtonnets. Mais seul l'instrument à clavier est illustré, et ce dessin sert de base. Mais il n'y a pas chez cet auteur d'illustration de hackbrett en particulier, et donc j'ai dû faire un compromis et partir aussi d'autres sources iconographiques. C'est super, il y a 12 cordes chromatiques sur l'instrument, ce qui est vraiment beaucoup pour le Moyen-Âge. Mais on peut faire beaucoup de choses aussi avec peu de matériel. Il y a 2 chevalets d'octaves ici, c'est-à-dire que chaque corde est divisée en 3 octaves, et donc on peut utiliser dans les 3 octaves presque tous les tons chromatiques.
Und das ergeben sich dann eben fast ganze drei Oktaven voll chromatisch.
Et alors, vous choisissez l'un des deux instruments dans le répertoire que vous jouez, par exemple, ce soir. Suivant l'écriture, la sonorité est aussi assez différente.
Nous choisissons d'après la disposition des voix de la pièce que nous voulons arranger. Avec le Dolce Melos, je peux aller plus bas dans des octaves et des registres plus graves, et le Hagbrett ou Psalterion, je l'utilise comme instrument aigu pour la voix de soprano.
On trouve des luthiers qui fabriquent ces instruments à la manière médiévale de plus en plus, ou bien c'est... Vous avez des relations particulières avec les gens qui ont construit ces instruments?
C'est un facteur de Fribourg en Brisgau, Bernd Meyer. Je lui suis très reconnaissante du temps qu'il y a consacré. Il s'est engagé, il a fait beaucoup d'essais avec des matériaux, il a travaillé avec finesse, je trouve, et c'était vraiment génial de travailler avec lui.
Ich finde sehr fein gearbeitet, was für mich ganz toll war, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Und das Hackbrett stammt aus dem
von München.
Le Hackbrett vient de Munich, Alfred Pichelmeier. C'est déjà un modèle établi, oui.
Ja, etabliert ist.
Aber mittelalterliches Hackbrett.
Das ist eher ein modernes Instrument.
Ce n'est pas un Hackbrett médiéval, non, c'est plutôt un instrument moderne que j'ai amené ici. Mais la sonorité est très proche et parfois on doit simplement prendre ce qu'on a.
Man muss auch manchmal einfach nehmen, was man hat.
Nous quittons Margit Hubel-Lacker, la hackbrettiste. Il faut vous imaginer qu'après cette répétition dont nous partageons encore quelques sons, il y a eu un concert qui a eu lieu, je vous le rappelle, à Gruyère dans le 3e atelier de musique ancienne. Et puis le lendemain, Crawford Young, un luthiste très pris de par le monde, le luthiste américain, a pris le temps de monter jusqu'au château de Gruyère où avait lieu justement, vous le savez, cet atelier animé par Philippe Motterio et David von Edwards. Alors on le retrouve un peu essoufflé, mais il va quand même vous donner son avis sur cet instrument qui est en train de se fabriquer, cette guiterne dont il a été beaucoup question. Je me permettrai de faire la traduction.
Crawford Young, nous montons alors au château de Gruyère ce matin. Je pense que vous avez une prédilection pour les châteaux médiévaux en général.
Can I speak yes. English? Yes, it's an incredible place. It's reminds me of some of the Burgundian.
Oui, c'est un endroit incroyable. Ça me rappelle des miniatures bourguignonnes qui montrent par exemple les châteaux du duc de Berry avec ce style de toit, les tuiles. Il y a cette atmosphère.
And it just has this atmosphere.
Vous êtes tombé dans le Moyen-Âge très tôt, Crawford Young.
Ah, I knew in 1977 that I wanted to specialize only in medieval music.
Ah, j'ai su en 1977 que je voulais me spécialiser uniquement en musique médiévale. Alors je suis tombé dedans par intérêt pour l'improvisation, parce que j'avais joué de la guitare électrique avant. Mais j'étais aussi intéressé par la musique classique, la guitare classique, et je suis remonté de plus en plus loin dans l'histoire de la musique et je suis tombé amoureux du Moyen-Âge.
Fell in love with the Middle Ages, and the lute is the quintessential, the perfect instrument for the aesthetic of the Middle Ages. Because
Et le luth est la quintessence de l'instrument parfait pour l'esthétique du Moyen-Âge, parce qu'il est très intime, on se dédie intensément à lui, et il est très éphémère. En d'autres termes, le son est là, à un moment, et puis il est parti. Vous ne l'avez qu'un instant, et il s'en va.
Le programme que vous avez présenté hier était un programme de musique de cours. Est-ce que donc, le luth était plus précisément un instrument de cours? Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre une musique plus populaire, médiévale, et cette musique de cours?
The lute, as a courtly instrument, was, how shall I say, it's only documented really from the...
Comme instrument de cours, le luth n'est vraiment documenté que depuis la fin du XIVe siècle. Même si nous pouvons imaginer qu'il était employé dans différentes cours, dont celle d'Alfonso el Sabio en Espagne au XIIIe, et on peut remonter probablement plus tôt encore. Mais en ce qui concerne les documents de rémunération des joueurs de luth professionnels à la cour, ça ne commence réellement qu'à la fin du XIVe siècle. Puis bien sûr très rapidement, il y en a de plus en plus. Mais il avait un rôle dans la musique populaire également. Et les instrumentistes qui choisissaient le luth pour la musique de cour étaient des gens de très haute pratique, c'est-à-dire qu'ils avaient une très bonne éducation musicale en ce qui concerne la théorie de la musique, l'histoire de Pythagore, les mathématiques derrière la musique. Mais ils pouvaient aussi être des gens qui suivaient la tradition des jongleurs, qui avaient simplement appris d'oreille et qui étaient des musiciens très virtuoses.
Following the tradition of the jongleur, simply learned by ear, and were very virtuosic performers.
Nous entrons dans la cour du château. Je vais vous guider vers l'atelier ici. Vous allez découvrir ces instruments qui sont maintenant dans un état avancé. Vous ne les avez pas encore du tout vus, hein?
Non.
Ici, c'est une cuisine. Et la salle des gardes est juste à côté.
Fantastique. This is an instrument. We're looking at this gittern, which is a unique example of a surviving medieval plucked instrument or late medieval plucked instrument.
Cet instrument, nous sommes devant la guiterne, cet instrument est un exemple unique de survivance d'un instrument médiéval tardif à cordes pincées, dont nous n'avons que deux exemplaires. Un, au British Museum, la guiterne dite de Warwick Castle, ou Seatoll de Warwick Castle, ce qui est plus exactement ce qu'elle est. Mais c'est un instrument d'un genre complètement différent de celui-ci, qui est celui qu'on appelle Quinterne de Wartburg, ou guiterne de la Wartburg à Eisenach en Allemagne. Et c'est l'instrument d'un praticien. En d'autres termes, il pourrait vraiment avoir été l'instrument d'un joueur professionnel, tandis que l'autre à Londres est plutôt une pièce d'exposition. Il ne semble pas tellement avoir été conçu pour la pratique, alors que l'instrument de Wartburg, si.
Un instrument geared for practical use, whereas the Wartburg instrument really, really seems to be.
Celui-là le deviendra, il reste encore du travail. Vous êtes intéressé à faire vous-même des instruments aussi, crofoliens?
Non,
je veux dire, ce serait un grand rêve, et je ne suis pas assez compétent pour faire ça.
Participer à un stage comme ça
Participer, ce serait intéressant aussi. Si j'avais le temps, je le ferais. Peut-être que je le ferais.
It should be thinner.
Voilà, imaginez-vous la scène, Crawford Young découvrant cet instrument, cette guiterne, construite à Gruyère, en compagnie et en présence de David Mestri. Une guiterne qui n'a plus aucun secret pour vous, je le sais. Vous savez bien sûr qu'elle est monoxyle, c'est-à-dire qu'elle est creusée dans une seule pièce de bois, vous l'avez entendu, un peu comme une grosse cuillère ou une petite pirogue. Vous savez aussi, ça dépend qui s'exprime, David von Edwards dit que cet instrument est sexy, et David Mestri, lui, me dit que ça ressemble plutôt à une paire de fesses, l'un allant parfois avec l'autre, mais quand un luthier rencontre un luthiste, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires que vous allez écouter maintenant.
Yeah, I don't know precisely the measurements, the thickness, what it should be, but I might be able to find out more information about it.
It has been opened and measured in the museum.
I'm not sure whether the thickness has been measured or not. It has been opened, yes, quite a long time ago. So whether that was done then, I don't know. Yeah. I know something about the weight, yes. Yeah. I was surprised how light it was. It was really quite light. And the neck, of course, will be a little bit, yeah, a bit thinner going up here. And but all in all, I mean, this, you're on a very good track with this. The curve of the peg box is something that I suppose you'll pay some attention to, because the original peg box, it's not really a kind of circular curve. It's almost a bit straight. Not straight, but yes. You know.
We were thinking we'd try and use some of the other iconography, which it shows a much more strongly curved peg box.
Right.
And really, that the original for this one seems slightly uncharacteristic of most of the iconography, which seems to have more of a curve. So I was heading towards the other. And there's the alien, of course.
That's a reference to the designer who lives,
yes,
who lives,
yes,
in this,
yes,
era. That's great.
And it's suitably evil, and I think modern. Would fix it as a Gruyere Gittern forever. What is your impression? It's almost impossible to tell because of this great lump, but what's your impression about the weight and therefore the thickness?
Well, you'd want to take some more wood away. I can't say exactly how much.
Yes, no.
But I certainly couldn't say this part as it is miles too heavy. It isn't. But it,
yes.
My impression is this,
yes,
is this is a bit too heavy.
Yes.
Well, I'm impressed. I think, yeah. I like what I see so far.
Good. Imprimatur. Royal stamp of approval.
There's also this.
Oh ben même Crawford Young, le célèbre luthiste américain, a été épaté par le travail de ces luthiers gruyériens, même si vous l'avez compris, il aimerait un instrument encore un peu plus léger. Et puis tous ces spécialistes sont revenus sur la sculpture en tête d'alien à la guerre que va recevoir cet instrument jusqu'à ce bon à tirer, comme on pourrait dire, ce sceau royal d'approbation qu'a délivré Crawford Young. Alors on va les rejoindre quelques instants, puis vous allez comprendre, malgré l'anglais, entendant l'oreille, que David von Edwards est assez fier malgré tout de ce premier instrument, puisque Crawford Young espère lui-même que ce sera le premier d'une longue série. David von Edwards, en tout cas, qui a trouvé du plaisir malgré quelques réticences, puisque c'est un plaisir très particulier pour un luthier que celui de creuser du bois plutôt que de l'assembler. Mais écoutez, nous écoutons.
Yes.
So this is the first guitar that you've
yes, yes.
Will this be the first of, you know, others, or a long line of?
Well, who knows? Yes, I'm interested in them. I'm interested in the fact that the repertoire goes together and the iconography goes together. If I'm making those, I ought to make some of these. And I actually like the construction, the rasping, and the general air of woodwork is so totally different. It's as if it's two different crafts altogether. It's been interesting watching the people. Some people react better to doing this instrument than to doing that instrument, and they feel much more at home with one than the other. So it is interesting.
David is new to rasp work, so he has pleasure with it.
Yes. I always despised it as German rasp work. This, you know, sort of the lowest form of carpentry.
This is.
I'm coming around
front
to it. Chisel out and remove the wood.
Yeah.
It's a serious amount of work. Everybody's had a go. They've all been working till they sweat. It's okay. It's the physical work of hacking it out from inside that's the. Take the plaster off.
I'm a bit caught a bit by surprise. I didn't realize that there was going to be this type of stuff going on here, and or I wouldn't have scheduled an appointment for 3 o'clock in Basel. So I'm gonna have to start rolling here. But
well, it's incredibly useful just to have your impression of the weight, because that really is what we needed to know. And I think that gives us courage to take out a bit more wood. And we'll go for it.
I don't think you should be too fearful of really going too thin.
No.
You know? I think it would be much easier to end up with it being too thick than actually to end up with it being too thin.
That's in general true of musical instruments. I think they have to be in fear of their life and trembling.
Yeah.
That's really the way they have to go. And so, yes, it's only our fear of going through. Good. Oh, well, we must let you go. But that's been incredibly useful. Thank you.
Oh, it's my pleasure to see you. To see you all hard at work. Okay, I'll let you all get back to work. Come on. I'll stand around here.
Pour les luttes Renaissance, on connaît bien les épaisseurs. Philippe Motterio. Tous les luthiers ont vraiment l'habitude de travailler avec des bois différents et d'adapter un peu les épaisseurs. Par contre, là, c'est vraiment un point d'interrogation. Puisque l'instrument n'a pas été, lorsqu'il était ouvert, vraisemblablement, il n'a pas été mesuré. Donc, on n'a pas de plan avec des mesures exactes. Et c'est très difficile, avec cette pièce de bois énorme, de se faire une idée.
Et puis, là, pour la finesse, il faut creuser. Et puis, à un certain moment, oui. Quand ça devient très fin, je pense qu'il y a des risques de plus grands.
Non,
c'est quand même là.
Non, ça reste quand même quelque chose de très solide. Tout autour, il y a une couronne de bois qui reste plus épaisse, qui apporte une structure, une nervure très, très rigide qui va tenir. Et c'est vraiment ces parois ici qui forment la principale, la plus grande partie de la caisse qu'on peut affiner beaucoup plus.
Est-ce qu'on imagine que la résonance est meilleure avec un bois très fin qu'avec un bois épais, ou bien est-ce que c'est pas forcément?
La résonance est meilleure si le bois de la table qui est collé dessus est fin et nerveux et vibre. Tandis que la caisse, bon, c'est moins important. Et peut-être que ce genre d'instrument avait des caisses très rigides et assez épaisses. Voilà, il faudra effectivement aller au musée de Wartburg pour prendre l'instrument dans la main et savoir combien il pèse.
Ça, c'est des démarches très compliquées. Alors,
c'est un voyage à faire, mais ce n'est pas marqué sur le plan, ça.
Est-ce qu'on vous laisse prendre dans les mains, etc. J'imagine qu'il y a plein de... C'est très protégé.
Il faut l'ouvrir encore. Pour dessiner un instrument, effectivement, on le renifle, on le pèse. Il faut l'avoir dans les mains aussi, pas seulement le regarder.
Il y a mes enfants là pour la visite.
Oui, ils ont les tranquilles.
Vous connaissez bien le sujet?
Oui, bah, moi je joue de la guitare en fait.
Jean-Paul Bazin.
Donc on discutait là de la sonorité que pouvait avoir la table de l'instrument en faisant un barrage un peu différent du barrage très simple qui était a priori le barrage utilisé à l'époque. Donc Philippe avait une proposition.
Donc le barrage, c'est la consolidation
de la table d'harmonie
de la table avec des barres
avec des morceaux de bois qui sont collés en travers de la table, en fait.
Et je vous disais a priori, parce qu'on ne connaît pas...
Ce qu'on peut voir, c'est sur des instruments beaucoup plus tardifs, parce que des instruments comme celui-là, bah, les instruments avant 1600 à cordes pincées, il en reste 3 ou 4, en fait, dans le monde. Donc c'est très difficile de se faire une idée, surtout que la plupart ont été complètement modifiés au cours du temps. Donc ceux qui nous sont parvenus dans un état modifié, dans une époque incertaine, je dirais. Et donc c'est très difficile de revenir à une idée simple. Donc bon, moi, je connais un petit peu l'histoire de la mandoline au début du XVIIIe siècle, donc la mandoline lombarde, qui n'avait que 2 barres. Donc je me base un peu là-dessus en me disant 2 barres, ça fonctionne. Donc pour des instruments d'une taille relativement modeste. Donc,
je partais du barrage du luth, où en fait les barres sont telles qu'on les a découpées ici, à 1,8 cm.
De hauteur.
Oui, et Jean-Paul arrive en disant, mais pourquoi vous ne les faites pas 2 fois plus hautes, comme dans les mandolines lombardes. Ah, voilà.
De toute façon, le nombre de barres aussi pourrait être modifié.
Alors, sur l'original, la guitare de haute, il y en a 7. C'est-à-dire un barrage vraiment très similaire à ce qu'on voit dans les luths, un barrage perpendiculaire à la fibre du bois et de nombreuses barres. Mais vraisemblablement, là, c'est des barres qui ont été ajoutées plus tard.
Pour faire mieux sonner l'instrument.
Alors ça m'étonnerait que ça sonne mieux avec, avec cette barre. Oui.
Mais là, pour l'instrument qui est en train de naître là sous nos yeux, on ne saura pas avant de l'essayer si on l'a bien fait avec le barrage.
Mais comment c'est un peu ça le problème, voilà.
C'est l'expérimentation, en fait, justement. Donc, moi, j'ai déjà deux guitares, en fait. Je suis en train de m'en faire construire une troisième. Donc ça, ça fait partie, justement, des discussions qu'on a avec les différents luthiers. Bon, et pourquoi t'as fait ça? Tu voudrais faire ça? Moi, je veux pas. Ça fait partie des négociations, ça fait partie des expériences. On va changer le bois, on va changer les épaisseurs. On change un peu tout parce qu'on n'a aucun document. À la différence des luths Renaissance, par exemple, ou des luths baroques, on n'a aucun élément vrai de comparaison, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc... On en est là, quoi. On expérimente et puis on essaye de trouver ce qui va le mieux.
Et donc, vous avez des relations avec des luthiers qui font des guitares? Non, ça existe donc,
oui, bah, par exemple, il y a Carlos González qui fait ici l'exposition d'instruments, enfin de photos d'instruments des chemins de Saint-Jacques, donc qui est un luthier aussi, hein, et qui, bah, c'est lui qui a fait deux de mes guitares pour l'instant. Bah avec lui aussi, c'est très intéressant de discuter, de dire, ouais, bon, lui en plus a beaucoup d'idées, il est très expérimentateur. Et c'est assez amusant de discuter justement avec Philippe qui a une autre approche. Moi je sais pas en fait, hein, une fois que l'instrument est terminé, je l'essaye, il va bien, il va pas bien. Parfois il faut faire cet instrument. Il y a une guitare de Carlos, j'ai été pendant un an à lui dire ça c'est pas terrible. Et puis en fait maintenant c'est la meilleure des guitares que j'ai, quoi. Donc,
elle a été modifiée ou...
Non pas du tout, elle s'est mise à sonner au fur et à mesure qu'on la jouait, quoi. Donc je crois qu'on ne peut pas vraiment faire de pronostic, quoi. Même sur un instrument qui, a priori, au départ, ne va pas sonner, il se peut très bien qu'il sonne quand on change les cordes. Il y a plein de possibilités différentes. Un instrument qui ne sonne pas du tout avec un certain jeu de cordes va sonner merveilleusement avec un autre. Le luthier se dit « oui, je vais mettre telle tension ». Et puis, en fait, à l'usage, on en met une autre tension, puis on s'aperçoit que ça sonne beaucoup mieux. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment avancé dans ce type instruments pour pouvoir donner des règles. Autant on connaît bien les instruments beaucoup plus tardifs, il y en a des dizaines dans les musées, on peut les comparer, on peut tous les copier indépendamment, on peut changer les paramètres. Autant là-dessus, on n'a pas de documents, quoi, hein, donc il faut faire un peu à l'expérience, quoi. Voilà.
Que vous compreniez bien la situation, nous sommes désormais toujours lors de ce troisième atelier de musique ancienne, mais le lendemain, si je puis dire, au son des derniers coups de rabot, d'ultimes réflexions sur cet art et cette pratique, David Mechtin.
Alors cette fois, la table est collée là sur ce luth médiéval.
Voilà.
Et ce qu'il reste à faire, c'est de réduire les bords, hein, parce qu'elle a été collée un peu pour un dépassant.
Oui, parce que sinon c'est un peu dangereux. Alors maintenant, on fait les bords.
Au rabot et à la gouge.
Et au ciseau à bois.
Au ciseau.
Ouais. Voilà. Exactement.
C'est pratiquement la dernière étape.
Une des dernières, oui. Après, il y a des petites finitions. Disons que les luths, en tout cas la table, n'était pas vernie à l'époque. Et puis, c'est sûr que dans les opérations qui restent à faire, c'est une petite finition, un petit peu de ponçage, racloir, et puis la pose des cordes.
Et pas vernis, vous voulez dire que ça reste comme ça, ce bois naturel?
En tout cas, la table, oui, reste comme ça. Et après, effectivement, la coque peut être teintée et vernie ou rester très naturel, donc en gardant un érable très, très blanc.
Mais je pense que pour la protection, il y a quand même une huile ou quelque chose comme ça qui est une imprégnation, non?
Oui, ça dépend. Je ne sais pas exactement ce qui, sur les luttes Renaissance, exactement ce qu'il y avait, mais je pense qu'il y avait une huile.
Très beau le travail des rosaces, hein, avec différents niveaux, là, de petit travail du parchemin et et des bois sculptés.
Ah ouais, c'est magnifique.
On se réjouit de l'avoir sonné un peu.
C'est pas encore pour aujourd'hui, alors, je pense.
Non. Bon, je crois qu'on va quand même essayer de mettre une corde pour voir un peu le son. S'imprégner un peu, mais c'est sûr qu'il faudra attendre un petit peu. Finalement, un instrument, ça se fait pas. Même à 5, 6, ça se fait pas en une semaine. Non.
Et vous allez participer à la suite de l'élaboration ou bien c'est fini pour vous?
Je ne sais pas du tout alors si j'aurai l'occasion de faire, comme pour la viole de Grand, faire la finition. C'est en question.
Vous avez participé donc à l'atelier de l'année passée avec la fabrication de cette viole?
Non, j'ai juste fait la finition, la teinte et le vernis.
Philippe Motério, on est à une heure de la présentation officielle de ces instruments. On va pouvoir les entendre déjà sonner, on va mettre une corde pour essayer ou bien pas encore?
Le cheval a été collé à midi, il est 5 heures, oui, ça tient, ça tiendra. On pourra mettre les cordes aiguës, par exemple.
Et pour la guiterne aussi, la table d'harmonie a été collée. C'est un collage définitif ou bien ça va être...
La table d'harmonie est collée, oui, tout à fait. Elle est en train de coller, là. On sera un peu juste pour mettre le chevalet, parce qu'on n'a encore pas fait le bouton qui va tenir les cordes à l'arrière. Alors je crois qu'on va choisir de mettre les cordes ce soir sur le luth.
Les vedettes de cette série qui vous ont permis de comprendre comment on fait un luth médiéval, eh bien vous les connaissez, mais il y a aussi toutes les vedettes invitées, en l'occurrence les stagiaires que vous avez entendues ici ou là au cours de cette semaine. J'ai nommé Monique Fidanza et Samuel Paquier de Bulle, Laurent Schmidt de Lucerne, Yves Rezo qui vient de France et Gerald Croson qui lui est issu d'Angleterre. Ça, c'était pour ce qui s'est passé dans cet atelier de luth, un instrument qui n'était pas fini lorsque nous l'avons quitté. Mais Philippe Motério vient d'envoyer un mail à David Mestri que je me permets de vous lire, ça a l'air presque public, en tout cas ça pourrait intéresser le plus grand nombre. Voilà ce qu'il écrit aujourd'hui même. Le luth est aujourd'hui terminé, son vernis à l'huile est bien sec, la guiterne est toujours chez le stagiaire qui se charge de sculpter la tête d'Alien, en attendant son coffre sur mesure qui est en commande, le luth est toujours dans mon atelier. Pour ce qui est des dates de l'atelier 2006, elles sont en ligne sur le site anselmus.ch, vous pouvez le noter. Le festival se terminera le dimanche de septembre 2006 et nous construirons en effet un violon baroque, peut-être deux, pour le Conservatoire de Fribourg et sa Haute École de Musique. Le nom du luthier invité pour cette édition n'est pas encore fixé. Le reste, formule de politesse, je vous le passe, mais effectivement, cet instrument, désormais, il existe. Il nous reste à conclure cette émission de musique en mémoire, très traditionnellement en musique. Et puis je vous dis depuis le début de cette émission que Crawford Young est un grand luthiste américain. En voici la preuve. Il dirige quelques membres de son ensemble Ferrara dans quelques pages instrumentales que David Mestri tire d'un disque intitulé « Fleurs de vertu », chanson subtile à la fin du XIVe siècle. Thank you. deux pages instrumentales anonymes pour l'une et signées Johannes Alanus pour l'autre, interprétées par l'ensemble Ferrara dirigé par Crawford Young. Dans Musique en mémoire, et passons de l'instrumental au chanté avec l'ensemble Discantus, cet ensemble de voix de femmes dirigé par Brigitte Lenne, avec une pièce Judici Signum qu'on a retrouvée à Saint-Martial-de-Limoges sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Thank you.
Judici Signum, une page du XIIe siècle, là interprétée par l'ensemble Discantus de Brigitte Lenne. D'un pèlerinage à l'autre, de Saint-Jacques de Compostelle au fameux Libre Vermel de Montserrat, une musique que je vous propose dans l'interprétation de la Capella des Ministres de Carles Magraner.
Thank you.
Voilà, ainsi s'achève cette émission Musique en mémoire. Je remercie en votre nom David Mestri, mais sachons nous souvenir que cette émission peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson et que c'est un certain David Mestri qui signe aujourd'hui la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Notre adresse internet, espace2.ch. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse, c'est plausible. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, des minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2, même si nous, c'est bien lundi que nous avons rendez-vous avec une nouvelle semaine, une nouvelle émission et une nouvelle série, en l'occurrence Travail d'orchestre. Nous y verrons de grands chefs d'orchestre historiques retrousser leurs manches et nous entendrons ce que ça donne. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Martine Béguin.
Ladies and gentlemen, ce Dada Zoff vous récite quelques poèmes de 1918. Ba 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 no. Et so so kili 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 korum. Ba 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 ba.
Ils étaient agiles de la bouche, agiles du cerveau, agités du bocal et prêts à tout pour faire trembler le bourgeois. Dehors pourtant c'était la guerre, celle de 14-18, la cruelle. Et eux, Haussmann, Tzara, Yanko, Ball et les autres, choisirent pour nom de baptême cette onomatopée, Dada.
L'effort en thème.
On a souvent cru, longtemps dit, que Dada n'avait été qu'un instant, un éclair dans le ciel de notre première guerre. Un cri de rage qui allait préparer le terrain, entre autres, au surréalisme. Mais non, dire cela, c'est nier à Dada sa poésie, son charme, sa passion, son ouverture, son rayonnement surtout, à travers l'Europe et jusqu'au Chili ou au Japon. Dada a parcouru le monde à travers des centaines de revues, de journaux, de plaquettes. Dada a crié ses délires, ses fantaisies et ses rêveries aux oreilles du bon peuple et des journalistes atterrés. Dada a choqué, certes, mais ses inventions artistiques, vocales, typographiques, lyriques, ont ouvert la voie, cassé les moules, déboulonné les statues du bon goût avec une énergie vitale dont les vagues se font ressentir jusqu'à nous. La constellation Dada, 1916-1924, une émission de Martine Béguin, avec les lectures de Nicolas Rinuit et Pierre Arbel, dans une réalisation de Jean-Philippe Zvalen et Yves Roulin.
Dada reste dans